Une des grandes caractéristiques de FDN, c'est qu'on n'est jamais devenu une entreprise. Ça a été créé sous forme d'une association gérée par des bénévoles et c'est resté une association gérée par des bénévoles. Donc fournisseur d'accès, associatif, bénévole, depuis avril 92, je ne sais pas si vous situez bien par rapport aux dates du film, sensiblement avant la bulle, bien avant que le premier financier se soit dit qu'il y avait éventuellement peut-être du pognon à faire. Moi, je suis président de l'association depuis décembre 97, donc j'ai vécu en tant que président d'un fournisseur d'accès Internet toute la bulle. J'ai travaillé chez tous les grands FAI de France pendant la bulle. Je me souviens très bien de comment, dans les couloirs de CGTEL, en 2002-2003, on discutait de ce qu'on allait faire des lambeaux d'Ifrance qui avaient été achetés à prix d'or par Messier. Voilà, ça j'ai croisé avec un regard sensiblement décalé, puisque j'ai jamais cherché à faire fortune sur Internet. Du coup, c'est très drôle, quoi. C'est très rigolo quand en plus on connaît les acteurs. Le sujet dont on m'a demandé de venir vous parler, et qui est pour le coup assez aride à lancer, surtout après tout le ridicule qu'on vient de voir, c'est la neutralité du réseau. Alors, c'est épouvantable, je peux vous le faire façon conférence très technique, avec pas de transparent et pas de tableau, donc juste avec les mains. Ça va être un petit peu compliqué. Ou je peux essayer de faire ça différemment, c'est de vous expliquer les deux ou trois fondamentaux, vous donner les deux ou trois éléments qui collent à ça dans l'actualité. Et puis après, on se fera un jeu de questions-réponses, parce que ça paraît plus rigolo comme ça. Alors les deux ou trois fondamentaux, c'est que d'abord, dans ce qui a été dit de l'époque de la bulle Internet, il y avait beaucoup de choses très très fausses, en particulier sur la finance, il y avait beaucoup de choses raisonnablement vraies, et puis il y a une erreur de lecture. C'est pas une bulle Internet, c'est une bulle web. Ce qui est pas pareil. Internet n'est pas le web. Internet est beaucoup plus compliqué que le web. La première application qu'apprend quelqu'un qui ne connaît pas Internet et qui s'y connecte pour les premières fois, c'est effectivement le web et c'est immédiatement le mail. Ce qui n'a rien à voir. C'est techniquement très différent, c'est structurellement très différent, c'est socialement très différent. À l'heure actuelle, une des autres applications qu'on apprend immédiatement, c'est le chat. C'est le fait de pouvoir discuter entre personnes, en direct, en live. Les gamins qui bavardent par MSN, c'est assez spontané. On leur donne un ordinateur, ils font ça, et ils n'imaginent même pas qu'on puisse en faire autre chose. Ça, ce sont des usages qui sont très très différents de celui du web. Donc, faut comprendre qu'Internet est quelque chose d'assez bizarre, parce que effectivement, il y a le web dedans, sur lequel on a fait une bulle, où, je me souviens d'exemples très drôles dans la bulle, ils étaient peut-être dans la première partie, mais moi, je me souviens de ces gens qui, à laquelle coup, je ne sais pas si c'était eux ou si c'était un autre, cherchaient à trouver, à acheter et à revendre des bidules moins chères, parce qu'on faisait des achats groupés, puis comme il n'y avait pas assez de gens pour se grouper et qu'il fallait quand même que le site fasse de l'audience, ils achetaient des objets à 500 et ils les revendaient à 400. Moi, je viens d'une famille de commerçants, ça m'a toujours paru curieux. Indépendamment de cet élément-là, il y a un élément vrai dans le net qui est assez facile à expliquer. C'est la première fois que quelqu'un peut s'exprimer. C'est assez bête. C'est à peu près le même. Je fais très souvent ce parallèle, donc les gens qui ont l'habitude vont pas être surpris. C'est du même ordre que l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, c'est ce qui a permis au XVe siècle l'explosion de la diffusion des savoirs. Avant, pour que deux personnes qui avaient envie de réfléchir sur le même sujet puissent s'appuyer sur la même base de connaissances, il fallait recopier la base de connaissances à la main. Ça prend une vie d'homme. Essayer de recopier une encyclopédie un jour, ça prend une vie d'homme. Même une petite encyclopédie, hein, pas sérieuse. Ce qui veut dire que si on espère que le savoir de l'humanité puisse grandir, à ce rythme-là, faut pas être nombreux, et d'ailleurs ça s'est bien vu, ça avançait très peu. Ça s'est accéléré quand on a été capable de diffuser du savoir. Ça, c'est l'invention de l'imprimerie, 1445, Gutenberg. Ça a mis très longtemps à s'accélérer, et ça, c'est... On peut trouver assez facilement un lien entre l'invention de l'imprimerie, la Renaissance, ce qu'on appelle la Renaissance, c'est la recroissance du savoir, parce qu'enfin, on est capable de le diffuser, alors qu'avant, on était tout juste capable de le préserver. Donc la Renaissance, la philosophie, les Lumières, la Révolution, les révolutions démocratiques, etc., etc., etc. Tout ça est lié. Il y a un lien assez direct. Et il y a une chose assez particulière qu'on a écrit, nous autres Français, en 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est le fait que chacun a le droit, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est celui qui définit la liberté d'expression et qui dit que chacun a le droit d'exprimer son opinion, de l'imprimer, de l'écrire, de la dire, etc. Je sais pas, il y en a combien, là dans la salle, il y en a combien qui possèdent une imprimerie? Bon, alors, moi, oui, mais les autres, et sans déconner, je possède une imprimerie. Une vraie ou plein de typos du 19e siècle. Mais donc cette liberté que vous avez depuis 220 ans de vous exprimer, vous n'avez pas matériellement la capacité de l'utiliser, puisque vous n'êtes pas capable de diffuser votre message. Si vous avez quelque chose à dire, à part vous mettre debout sur un tabouret dans la rue, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Dans la presse, il y a combien de personnes qui écrivent dans la presse? 10 000 en France. Si on compte la presse scientifique et la presse ultra spécialisée, on va arriver à 50 000. Sur 60 millions. Combien de personnes qui parlent à la télé? 300, 400, 500? C'est ridicule. Le grand virage d'Internet, c'est ça. Ce que change Internet, c'est que vous avez, chez vous, sur votre accès, je parle pas du fait que vous ayez le droit de publier des commentaires sur un site web, hein, il y avait déjà les petites annonces du Parisien pour faire ça. Vous avez chez vous un ordinateur relié au réseau qui est capable de diffuser en direct de l'information. Potentiellement vers énormément de gens. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous avez chez vous l'équivalent d'un émetteur de télévision. C'est structurellement différent. Ça n'a rien à voir avec les médias au sens habituel. Ça n'est pas un média qui diffuse du contenu vers des gens qui suivent, ce sont des gens qui diffusent. Structurellement, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros diffuseurs et des petits diffuseurs, il y a des gens dont j'ai pas envie de lire l'opinion parce qu'elle est tarte, mais il n'empêche que je suis susceptible de la lire, je suis susceptible de lire à peu près tout ce qui peut se dire. Donc ça modèle une société différente, exactement comme l'imprimerie, la révolution industrielle et la démocratie ont modelé une société différente. Donc en ce sens, tout n'est pas acheté dans Internet. Il y a bien le côté ridicule de la net économie des années 99-2000, qui était très drôle, mais il y a un fond où on sent qu'Internet change profondément les structures de la société humaine. Ça a l'air très pompeux dit comme ça, mais en fait, ça change le rapport des hommes entre eux exactement comme la presse a remodelé la société. La notion d'information, au XIIIe siècle, c'était des troubadours. L'arrivée de la presse, l'arrivée des livres, a changé le monde. Car si le monde d'aujourd'hui ne ressemble pas au monde d'il y a 5 ou 600 ans, c'est en grande partie parce qu'on a trouvé un moyen plus efficace de diffuser du savoir. Et du savoir, ou des récits, ou de diffuser du contenu, et de produire ce contenu. Internet présente une avancée du même type. Alors, pendant longtemps, moi j'ai raconté ça en conférence, par exemple, c'était la conclusion de la conférence Internet libre au Minitel 2.0, que j'ai faite il y a 2 ans et demi. Donc il y a 2 ans et demi, on me prenait pour un allumé, on m'expliquait que j'étais rien qu'un anarcho-gauchiste, que j'avais qu'à retourner faire de l'associatif dans mon coin. Maintenant c'est un peu plus sérieux parce que c'est très précisément l'argumentaire utilisé par le Conseil constitutionnel pour torpiller la loi Hadopi première du nom le 10 juin. Donc ça veut dire que finalement c'était pas complètement illuminé ce point de vue. Du coup, il se pose forcément sur le réseau des questions qui ne sont plus des questions d'ordre économique, mais qui sont des questions d'ordre politique. On sent bien que, exactement comme dans la bulle électrique en 1901, il y a eu des questions économiques, mais l'intérêt de l'électricité n'a jamais vraiment été remis en cause. On imagine bien, qu'en 1445, les tout premiers à avoir joué à imprimer ne s'en sont pas sortis financièrement et ont eu des problèmes de modèle à trouver. Gutenberg a fini sur la paille, et les premiers imprimeurs ont très mal tourné, les premières bibles imprimées, puisqu'à l'époque on imprimait ça, ont fini brûlées pour hérésie, puisqu'on les produisait par des procédés démoniaques. Donc c'est pas nouveau, cette difficulté à trouver un modèle. Il n'empêche que l'invention de la presse, le sujet intéressant dans la presse, c'est pas tellement le modèle économique des libraires. On sent bien qu'il y a quelque chose de plus sérieux que ça. Et de la presse à imprimer, de Gutenberg, on a fini par dériver dans les démocraties modernes un certain nombre de libertés, dont la liberté de la presse. Pour vous aider à situer, en France, on a mis que 440 ans. Puisque c'est la loi sur la liberté de la presse 1881 et la liberté d'expression 1789. Donc, selon la lecture qu'on a, c'est 340 ou 440 ans. De la même manière, la question de ce que c'est qu'Internet et de comment on s'en sert et de ce qu'on en fait, je comprends que les banquiers et les analystes financiers s'intéressent essentiellement au modèle économique, c'est leur business. Mais il y a une vraie question de citoyen derrière qui est à quoi ça sert, comment ça s'utilise, qui a le contrôle dessus, bref, quelles sont les règles du jeu. Exactement comme il y a besoin de garantir la liberté de la presse, parce que sinon ça disparaît. Et bien de la même manière, l'équivalent en matière d'Internet, ça s'appelle la neutralité du réseau. Ce qui est un concept qui est très spécifique au réseau, c'est-à-dire que ça n'existe que dans les réseaux, la question de neutralité, ça n'existe pas dans les médias traditionnels. Par définition, les médias traditionnels auxquels on est habitué et qui sont physiques sont neutres. Ça va faire bondir. J'ai pas dit que TF1 était politiquement neutre, hein. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle si j'essaye de vous donner une définition non technique de la neutralité du réseau, c'est assez facile. D'où que je sois, je vois le même Internet. Il y a un seul Internet. Et d'où que je sois, je vois le même. Ça veut dire que si de ma connexion chez moi, abonné chez FDN, ou de la connexion de mon voisin, abonné chez Orange, ou de la connexion de mes copains espagnols, abonné chez Telefonica, ou de la connexion de mes copains en Chine, on ne voit pas le même Internet. C'est-à-dire que le même site web n'est pas affiché de la même façon partout, que les mails ne sont pas transmis de la même façon partout, etc. Alors, le réseau n'est pas neutre. Puisque entre eux et moi, il n'y a que le réseau. Dans le monde de la presse écrite, ce qui fait le réseau, ça n'a pas tellement de sens. Il y a bien le réseau de distribution. C'est-à-dire qu'effectivement, si le marchand de journaux dans le kiosque, il arrache des pages, on sent bien qu'il y a un truc pas neutre dans le réseau de distribution. Mais la question est assez faible parce que ça se détecte facilement et que basiquement le papier ne ment pas. Le papier est neutre, l'encre est neutre. Dans un réseau de télédiffusion, les ondes hertziennes sont neutres. On peut pas bien les attraper et les filtrer. Donc la question de la neutralité du réseau, elle se pose sur Internet parce qu'Internet est une interconnexion d'opérateurs. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a Internet qui appartiendrait à une entreprise, la Internet Corporation, où des gros seraient clients de ce machin, où des moyens seraient clients de ce machin, où des petits genre Free seraient clients des moyens, et où des nains genre vous seraient clients des petits, et que chacun irait vers Internet. Ça marche pas du tout comme ça. Internet fonctionne pas comme ça. Internet, ce sont 40 000 réseaux, entièrement indépendants les uns des autres, qui ont décidé de s'interconnecter entre eux de manière sensiblement anarchique sur qui est connecté avec qui, mais en respectant absolument et entièrement un seul protocole, une norme d'interconnexion. C'est cette norme d'interconnexion qui fait Internet. Internet, ça n'est que la norme d'interconnexion de ces 40 000 réseaux. Il n'y a pas de centre. C'est ce qui fait que si vous coupez le machin en deux, vous aurez deux internets à côté l'un de l'autre, qui ne se voient pas et qui ne se parlent pas. Ça, techniquement, c'est pas dur à faire. Ça se produit même de temps en temps qu'Internet se coupe. En général, il se coupe pas entièrement, mais ça arrive. Qu'il y ait des connexions qui sautent et qui font que, ben, pendant un moment, il y a des pans entiers d'Internet qui ne sont plus reliés au reste et qui forment leur espèce de petit Internet à eux. Exactement comme quand votre accès Internet est en panne, vous arrivez encore à ce que vos ordinateurs à la maison soient en réseau entre eux. Et il y a comme ça des fois des pays qui se retrouvent isolés ou des gros opérateurs qui se retrouvent isolés suite à quelques pannes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un grand réseau central, il y a N réseaux. Tout le monde transporte les données de tout le monde. Pour aller de chez moi à Paris à chez mes amis en Chine, il n'y a pas une grande ligne de téléphone continue. Il y a des dizaines d'opérateurs intermédiaires. La parole que j'émets, elle est transportée par des dizaines d'opérateurs intermédiaires. Si chacun se met à s'autoriser sa petite altération personnelle sur le contenu, son petit zinzin à lui, parce qu'il a décidé que ça, chez lui, c'était illégal, que ça, chez l'autre, ça l'était aussi, le réseau n'est plus neutre du tout, mais surtout, en quelques semaines ou en quelques mois, le réseau ne marche plus. Si chacun se met à vouloir faire selon sa petite norme, forcément, les gros vont vouloir l'imposer, ils vont en faire une guerre, et on va trouver trois ou quatre très grandes compagnies mondiales qui vont décider d'opérer leur réseau, et vous aurez quatre internets parallèles, dont aucun ne sera plus véritablement Internet. Donc, l'enjeu sur les questions de neutralité du réseau, c'est de cet ordre-là. C'est à peu près du même ordre de grandeur que la question de la liberté de la presse, il y a finalement pas si longtemps. Là-dessus, on appuie énormément de liberté publique, puisque ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel, alors je dois avoir dans mon portable, loin derrière, là, dans mon sac, j'ai les textes exacts, mais en gros, ce qu'il a rappelé, c'est qu'Internet était aujourd'hui, dans la société française du XXIe siècle, un outil nécessaire à l'exercice pratique de la liberté d'expression, et que donc, pour vous priver d'une liberté, il fallait une décision d'un juge. C'est ça la décision, la position prise par le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire qu'on est allé presque d'un seul coup, beaucoup plus loin que ce que nous, on aurait pu demander. C'est-à-dire que les politiques, depuis des années et des années, essayent de faire main basse sur le réseau, essayent de nuire à la neutralité, pour mille raisons, j'y reviendrai. Il y a trois grands ennemis à la neutralité du réseau, chacun avec sa raison propre. Et la réponse du Conseil constitutionnel, ça a été de dire que la neutralité du réseau, que la liberté d'accès à Internet, était dans la Constitution depuis 1789. Si nous, on avait demandé que Internet soit considéré comme une liberté fondamentale et que ce soit inscrit dans la Constitution, je veux dire que tout le monde se serait marré. C'est bien intéressant que ça ait été ajouté automatiquement par le Conseil constitutionnel actuel. Pourquoi est-ce que je viens de vous embêter avec ces enjeux-là, hormis essayer de vous faire comprendre qu'ils sont vrais? Il y a à l'heure actuelle trois natures d'opposants à la neutralité sur le réseau. Pour faire simple, il y a tous les gens dont le business est devenu périmé. Forcément, les premiers à s'être plaints de l'imprimerie, c'était les moines copistes. C'est-à-dire que leur boulot était quand même sévèrement remis en cause. Eh bien, les premiers à se plaindre d'Internet qui permet... Internet n'est qu'une machine à copier du contenu. C'est un réseau, c'est-à-dire que ça sert à transporter des données d'un ordinateur A à un ordinateur B. Ça sert à faire une copie à distance. Ça n'est que ça, un réseau. À qui est emmerdé? Ben, les moines copistes de DVD. Très embêtés. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir accès à un contenu, à une œuvre de l'esprit, il fallait aller acheter un livre en bois d'arbre chez le libraire, ou un disque en plastique chez le marchand de disques. Et maintenant que l'œuvre de l'esprit, elle est entièrement numérique, la copie se fait par le réseau, quel business y reste? Ils ont un vrai problème économique, ces gens-là. Tout le modèle, tous les gens dont le métier était de vendre des livres en papier et des disques en plastique, ils sont dans la merde. Parce que ça ne se fait plus. Il restera des gens qui achètent des disques exactement comme il reste des gens qui continueront à acheter des livres. Pour l'objet, pour le plaisir, pour mille raisons, comme il continue à y avoir des gens qui achètent des montres mécaniques, comme il continue à y avoir des gens qui achètent honnêtement, une montre qui affiche l'heure avec des aiguilles. C'est naturel. Bon, c'est pour le plaisir, parce que l'objet est joli, parce que j'aime bien jouer avec dans ma poche, mais c'est pas parce que c'est indispensable. Le marché est un marché de niche. Et donc, de la même manière, les gens dont le business repose sur le contenu vont forcément avoir un problème. Il y a une catégorie qui, par effet de bord, va avoir un problème, qui sont tous les gens qui vivent du droit d'auteur. C'est très vaste. C'est effectivement les auteurs, les artistes, interprètes, etc. C'est les journalistes. Eux, ça y est, c'est fait, c'est passé. Ça, c'était dans la loi Hadopi, ils se sont fait enfler. C'est définitif. Mais tous les gens qui vivent du droit d'auteur, vont avoir un problème, puisque la définition du droit d'auteur, c'est que quand je fais commerce du support physique, quand je fais commerce de livres, ce qui coûte le plus cher dans le livre, c'est le papier. Ce qui fait la majorité du prix du livre, c'est le papier et tous les coûts qui sont liés au papier. Transport, ça pèse des tonnes, la manutention, les mètres cubes de stockage, les centaines de mètres de rayonnage pour stocker tout ce merdier chez le libraire. C'est tout ça qui fait le coût essentiel du livre. Et de ce coût, bah, avec un modèle économique relativement classique de l'économie matérielle qui marche très bien, on arrive à ce qu'il y a un prix, il y a un prix de revient, il y a des marges, il y a une offre, il y a une demande, il y a des ventes. Et sur l'ensemble, on prélève un pourcentage et on dit ça, c'est pour les auteurs. À partir du moment où vous passez dans une économie de biens immatériels, il y a plein de règles qui sont plus vraies. Une petite chose simple à comprendre, toute chose égale par ailleurs, que nous échangions un fichier ou pas, il n'y a pas d'incidence de coût. Moi, je suis déjà abonné à Internet, ma petite sœur est déjà abonnée à Internet, Internet existe, nous avons besoin de cet abonnement pour 1000 choses, dont lire du mail, enfin, plein de choses, que nous échangions ou pas un fichier de plus, ça ne coûte rien à personne. Le coût marginal de production d'un exemplaire supplémentaire de ce fichier est nul. Et quand le coût marginal de production d'un exemplaire supplémentaire est nul, ça veut dire que le coût de production est nul, basiquement. Si le coût de production est nul, je vous laisse jouer avec les lois de l'offre et de la demande, l'offre est illimitée puisqu'on peut produire à coût nul les exemplaires. La demande est nécessairement limitée parce que je vous assure, au-delà de 18 heures par jour, la musique, ça saoule. Offre illimitée, demande limitée, coût de production nul, quel est le prix de vente ? Forcément zéro. C'est l'économie toute simple. Si le prix de vente est zéro, quand le pourcentage pour les auteurs est fixé sur le prix de vente, c'est forcément zéro aussi. Donc essayez de faire, avec des biens immatériels, de l'économie du 19e siècle, telle que l'avait défini par exemple Karl Marx, ou telle que l'avaient défini les gens comme Smith, etc., ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas de sens. Le modèle économique est fondamentalement vicié. Et pour une raison que les mathématiciens connaissent bien, on a mis un zéro dans l'équation. Quand vous commencez à multiplier ou à diviser par zéro, a priori, très vite, tout part en couille. Une fois qu'on a accepté de diviser par zéro, on démontre très facilement que 1 égale 2. Donc le problème fondamental de ces entreprises obsolètes, c'est ça. C'est leur business n'a plus de sens, ou en tout cas plus autant. Et donc tout ce qui en découle, et par exemple tout le financement de la création artistique en France, il va falloir trouver un autre modèle. Parce que celui-là n'a plus de sens. Il y aura toujours un commerce des disques, on pourra toujours continuer à rémunérer les auteurs avec un pourcentage du commerce des disques physiques. Mais il n'empêche que tous les échanges non marchands qui sont faits à coût nul, on ne peut pas espérer en tirer une rémunération comme ça. Il faut trouver un modèle autre, si on veut qu'il y ait une rémunération là-dessus. Donc ça, c'est la première variété d'entreprise qui attaque Internet. C'est une des variétés les plus puissantes. La deuxième variété, ce sont les entreprises nouvelles. Parce que, bah, curieusement, les fournisseurs d'accès Internet sont dans une position de force. Vous pensez que pour 30 euros, vous avez acheté un accès Internet et qu'on vous doit un accès Internet. En fait, vous avez offert votre temps de cerveau disponible à un fournisseur d'accès Internet en vous proposant de le payer pour ça. C'est très curieux comme approche, mais c'est bien la vision qu'ils en ont. Et donc, à chaque fois que vous, client de tel gros fournisseur, vous allez faire quelque chose sur le net, avec votre abonnement que vous avez payé, où c'est écrit partout dans le contrat que c'est illimité, le fournisseur considère qu'en gros, vous abusez du service. Et oui, si vous ne vous en étiez pas servi, ça lui aurait coûté moins cher. Il n'aurait pas eu à s'emmerder à construire un réseau. Donc il considère que cet usage que vous faites est un surcoût, qu'il convient de rentabiliser. Si vous regardez des vidéos chez Dailymotion, et que Dailymotion vide la publicité, il considère que tout ce trafic est indu. Alors il va aller voir Monsieur Dailymotion en lui disant, soit tu me donnes une part de ton gâteau, soit j'empêche mes abonnés d'aller chez toi. Pas forcément une panne franche, hein. Ça peut être des pannes pas franches. Ça ramouille, ça perd des paquets, il y a des jours où ça marche pas, ça coupe au milieu du fil. C'est très facile de faire des pannes, il suffit de pas regarder. Donc ils vont voir M. Dailymotion en lui disant « je veux une part de gâteau ». Ça, c'est quelque part aberrant. Vous avez déjà payé. Les gens à qui il a vendu son réseau, c'est vous. Ce que vous en faites, c'est pas son problème. C'est exactement comme si La Poste décidait que quand j'utilise un timbre poste pour envoyer un bon de commande chez La Redoute, La Poste veut son pourcentage du montant du bon de commande. Surnaturel. J'ai déjà payé le timbre pour le transporter et La Redoute paiera le timbre pour transporter le produit. Il n'y a pas besoin de payer plus. Mais c'est très tentant d'utiliser cette position de quasi-monopole pour en faire un droit de péage. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Autant pendant les débats sur Adopi, il faisait un peu profil bas, autant juste après, je suis en train de chercher son nom, Jean-Bertrand Lévy, je crois, le patron de Vivendi. Il doit être directeur de Vivendi en Bretagne, si je ne me trompe pas. Qui expliquait à la presse sa façon de penser et qu'en gros, il allait arrêter de faire croître le réseau et chercher à monétiser le contenu. Traduit en français, ça donne ça. Hein. Il va aller racketter les gens qui ont du contenu que vous avez envie de consulter. Donc ça, c'est la deuxième grande famille d'opposants au réseau. C'est ceux que je connais le mieux. Parce que ceux-là, en tant que président de FDN, ça fait 10 ans que je les ai sur le dos. Les autres, c'est plus frais. Les marchands de musique, ils ont mis plus longtemps à comprendre ce qui leur arrivait. Et ils sont devenus vraiment très 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 agressifs il y a 6 ou 7 ans. Alors que les gros fournisseurs d'accès, ça fait un peu plus longtemps. Et la troisième variété d'opposants, ce sont les gens qui, avant, avaient le monopole de la parole publique. Au premier rang, les politiques. Ils ont un mal de chien à comprendre ce que c'est qu'Internet. Les politiques avaient l'habitude que, quand la presse dit du mal, il y a un article vraiment très désagréable à la une du Canard Enchaîné ou du Monde, quand ils vont essayer de faire les marchés le dimanche pour se faire réélire député la semaine d'après, ils se font insulter. Ça, ils savent à peu près gérer. Ils savent à peu près gérer, c'est-à-dire quand on a le bras suffisamment long, il suffit d'appeler le directeur de la rédaction et puis ça cesse. Tout le problème d'Internet, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Et quand quelque chose part en vrille, une info a été donnée et puis elle se répand. Elle se répand comme, exactement comme se répand une rumeur depuis la nuit des temps. C'est pas contrôlable. On peut pas empêcher les gens de dire. Et ça, ça pose un vrai problème aux politiques. Ils en ont peur. Je pense qu'ils en ont peur à tort, mais ils en ont vraiment peur. Et puis, il y a tous les autres de ceux qui détiennent la parole publique et qui en ont une peur bleue. Typiquement, j'aime beaucoup... grande et puissante déclaration de Jacques Séguéla il y a pas longtemps, je sais pas si il y en a quelques-uns qui m'ont entendu, j'en vois un qui se marre, donc oui, mais... Voilà, qu'Internet était la plus grosse saloperie inventée par l'humanité. Bon. Moi, je me disais que l'écartèlement, c'était quand même devant, que, je sais pas, les esclaves, les petits-enfants qui travaillent, la bombe à fragmentation, la mine antipersonnelle, il y en avait 2 ou 3 que je mettais devant comme ça. Et Pierre m'explique bien pourquoi. Hein. C'est parce que rendez-vous compte, Internet, c'est terrible. Quand quelqu'un fait une connerie et puis qu'elle est filmée, ben après ça finit sur Internet et tout le monde le sait que le ministre, il a dit de la merde. D'un autre côté, il est ministre, s'il se doute pas qu'il est filmé quand il dit des conneries, il faut qu'il change de métier. Et simplement, avant, il était filmé par des gens qui étaient pas complices, parce qu'on peut pas dire que la presse soit complètement aux ordres, mais qui au moins avait le bon goût de ne pas diffuser trop les dérapages. Or, il se trouve qu'à partir du moment où les dérapages ils sont filmés par n'importe qui, ben, y a un vrai risque qu'ils soient diffusés. Et une fois qu'ils sont diffusés, on peut pas empêcher. Exactement comme avant, une fois qu'une info était sortie dans un canard un peu sérieux, on pouvait pas la rattraper. On pouvait au mieux essayer de faire taire les 2 ou 3 journaux copains, mais pas plus. Et donc les politiques ont un vrai gros problème. Et il n'y a pas que. Donc il y a ces gars-là, il est politique, quand même. Il est politique et publicitaire. Mais publicitaire, c'était un détenteur de la parole publique, c'était lui qui formatait l'opinion. Et il constate, outré, que l'opinion arrive à se former sans lui. Elle se forme pas forcément bien. C'est-à-dire, en relayant toutes les merdes qu'on croise sur le net, on forme pas une opinion très instructive ou très intéressante. Mais on forme une opinion qui n'est pas formatée par ces gars-là. Ça lui déplaît. Typiquement, dans les détenteurs de la parole publique précédemment, il y a les journalistes. Alors, faut se méfier, parce qu'il y a plein de variétés de journalistes. Typiquement, le journaliste d'enquête qui va aller travailler en Afghanistan pour essayer de voir un peu ce qui s'y passe d'autre que ce que raconte TF1, et qui va revenir avec du contenu, et puis qui, si ça se trouve, son contenu dira qu'il s'y passe ce que raconte TF1. Celui-là, il n'est pas remis en question par Internet. Par contre, typiquement, le chroniqueur qui n'a à vendre que son opinion, qui la vend tous les matins à la télé, tous les matins à la radio ou toutes les semaines dans la presse, il n'a à vendre que son opinion. On doit être au moins 10 dans la salle à avoir une opinion sur à peu près n'importe quoi. Parce que les autres, ils dorment, mais... tout le monde en a des opinions. Genre, moi, je vous en fais tous les matins une opinion sur un sujet. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi son business à lui? Il a une opinion? Ouais, nickel. Il y a d'autres variétés de journalistes. Il y a les gens qui font typiquement les dossiers sur qu'est-ce que c'est que tel truc, on va vous expliquer Internet, on va vous expliquer la justice, on va vous expliquer le commentaire du procès machin. Le commentaire du procès machin, quand il est fait par un journaliste sur une télé quelconque, c'est assez léger. Vous prenez le même qui a été écrit par un juriste sur son blog. Au hasard, si vous emmerdez, Maître Eolas, c'est le plus connu, c'est le plus lu de France. Mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'aime beaucoup Maître Beau. Un très très joli blog, agréable, avec des vrais textes bien faits. Il vous donne des analyses juridiques de textes qui sont à des kilomètres au-dessus de ce que vous pourrez trouver, même dans la presse écrite. Et donc forcément, les journalistes qui avaient comme profession de faire cette analyse, ils sont embêtés, forcément embêtés. Et la presse qui vivait du commerce d'un support physique et qui prélevait un pourcentage là-dessus pour rémunérer ses journalistes, elle se trouve face à un problème économique, parce que maintenant j'ai le choix entre lire la presse en ligne et lire la presse sur papier. Et puis, comme on a éduqué les gens à lire des journaux gratuits avec de la publicité, ils ont l'habitude d'un article qui fait 12 lignes. Basiquement, les dépêches d'agence, elles font 12 lignes et elles sont disponibles gratuitement sur le net. Donc là, il y a des vraies questions de modèle économique à poser. Et vous noterez que dans tous ces gens-là, ce sont essentiellement des opposants économiques, que ce soit les industries obsolètes, que ce soit les industries nouvelles qui espèrent se mettre en situation de taxer tout le monde, ou quelques-uns des détenteurs de la parole publique. Mais la majorité des détenteurs de la parole publique sont des opposants politiques, honnêtes. Ce qui est très différent. Ils viennent pas avec les mêmes armes. En particulier, on sait à peu près de quoi c'est capable quelqu'un qui est un opposant économique. C'est capable d'absolument tout. Des coups bas, les pires, etc., etc. Mais en général, ils sont pas complètement au pouvoir. Ils sont à côté du pouvoir, mais pas complètement aux manettes. Par contre, quand on commence à avoir des opposants politiques, c'est-à-dire des gens qui, pour des raisons politiques, veulent brider Internet, on a affaire à des gens qui ont des moyens beaucoup plus puissants, parce que eux, ils sont au pouvoir. Et que donc ce petit jeu sur la net neutralité, ces petites questions qui sont traitées par la presse comme étant très anodines, c'est-à-dire la presse, on vous a expliqué, Adopi, c'est les enfants qui téléchargent, alors comme les enfants sont pas sages, on va les priver d'Internet, comme un moment vous privez de télévision. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. Adopi, c'est beaucoup plus sérieux que ça. On va priver des gens de liberté d'expression alors qu'ils ont réalisé un usage somme toute relativement anodin d'un outil moderne. Et ça, c'est pas de moi, c'est du Conseil constitutionnel. Adopi, c'est une des étapes. Il y en a eu d'autres auparavant, il y en a d'autres après. Je pense que c'est le premier gros combat politique du 21e siècle. On en vit encore quelques-uns qui sont des combats du XXe siècle, sur les questions économiques, de savoir s'il faut ou pas réguler le capitalisme, de savoir si le marxisme et le léninisme a plus de chances que le capitalisme échevelé d'apporter le bonheur à l'humanité. Ça, c'est des combats du XXe siècle, dont il reste encore des bouts en ce moment. Mais la question de la liberté d'expression sur Internet, c'est vraiment un combat du XXIe siècle. Et on risque d'en manger pendant un petit moment. C'est-à-dire que tous ceux d'entre vous qui ont entendu parler d'Adopi, seront ravis d'apprendre ce que c'est que ACTA, seront ravis de décortiquer les morceaux du paquet télécom, seront ravis de savoir que, par exemple, moi, depuis 10 ans que je traîne dans ce monde-là, j'avais pris le rythme, il faisait une loi débile tous les 2 ans, en moyenne. Là, en ce moment, je suis contraint de m'intéresser à un projet de loi à peu près tous les mois. Ils arrivent à trouver un texte qui va égratigner Internet à présenter à peu près tous les mois. Donc tous les mois, on prend analyse juridique du truc. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est grave? Où est l'erreur de raisonnement? Pourquoi ça marche pas? Et d'aller expliquer ça aux députés, d'aller leur dire qu'il faut faire gaffe, etc., etc., etc. Pour le moment, il n'y en a qu'un qui a été voté dans les récents. Il y a Hadopi, évidemment, mais celui-là, il est moins nocif qu'il lui paraît, vu ce qu'on l'a maltraité. Le dernier à être passé, c'est celui sur les jeux en ligne. C'est-à-dire, quel rapport avec la liberté d'expression ? On parle de jouer sur de la course hippique ou de jouer au poker. Eh bien, en fait, on parle de filtrer les sites de jeux en ligne qui n'ont pas l'agrément du ministère de l'Intérieur. Et dans la première version du texte, on parlait de filtrer ces sites sur décret du ministère de l'Intérieur. Donc on parlait de faire de la censure sur Internet sur décret du ministère de la Police. C'est quand même curieux. Et c'est parce qu'on a été secoué un peu les députés en leur disant « Écoutez, déjà sur le principe, ça paraît bizarre de censurer sur ça. Nous, il nous semble qu'au strict minimum, il faudrait qu'il y ait un juge. » Donc ils ont accepté à la dernière minute de faire passer un amendement disant qu'il y a un juge. Mais donc on a le droit de censurer s'il y a des gens qui font des jeux d'argent de manière illégale. Il faut savoir que les jeux de hasard sont interdits en France. Vous allez tomber sur le cul, mais la tombola de la kermesse de l'école, c'est pas autorisé. C'est un monopole du PMU. C'est un jeu de hasard et d'argent. C'est interdit. Moi, le fait qu'on puisse envisager la censure dans la presse parce que la presse quotidienne régionale a parlé de la tombola de la kermesse de l'école, ça me paraît surnaturel. Or, c'est bien de ça qu'on parle. On parle de censurer sur Internet les gens qui exercent de manière illégale le métier de marchand de jeux d'argent. C'est très curieux comme approche. Et donc on a réussi à obtenir un petit quelque chose qui est qu'au moins il y a un juge. Donc voilà, des textes de loi comme ça en ce moment, on en voit passer, je vous dis, à peu près un par mois. Et donc ça va être... ceux dont vous entendrez le plus parler, ce sont ceux... En fait, soit ce sont de petits textes qui passent assez inaperçus comme celui sur les jeux en ligne, et où, ça demande d'être vraiment attentif pour repérer que devant il y a des trucs qui vont pas et pour aller expliquer aux députés ce qui va pas. Ils sont toujours très surpris quand ils nous voient débarquer avec le texte de loi en leur disant, voilà, là, c'est le paragraphe tant dans l'article truc, là, il va pas. Le reste, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas casinotier, mais par contre, le paragraphe, là, il est pas bon. Ça les surprend toujours que des citoyens, parce qu'on est des citoyens lambda. Moi, je suis encarté dans aucun parti, que leur conseiller vienne leur dire « Attention, il y a ça qui va pas, ils ont l'habitude. » Mais que le citoyen lambda aille voir son député en lui disant « Regarde ce que tu vas voter quand même. » Ils ont pas l'habitude de ça. Donc en ce moment, soit on voit des toutes petites lois, soit on en voit passer des assez grosses dont vous risquez d'entendre parler, essentiellement sur Internet, hein, beaucoup plus que dans la presse écrite. Les très grosses seront celles qui parleront de filtrer Internet, soit... pour lutter contre la pédopornographie, soit pour lutter contre le terrorisme, soit pour lutter contre, je sais plus ce que c'est, le troisième grand fléau en notre bas monde. Voilà, c'est de cet ordre-là, hein. C'est toujours du pédonazi, ça revient à ça. Avec jamais la plus élémentaire réponse à la plus élémentaire question qui est-ce efficace ? En règle générale, la réponse est non. Et une fois qu'on a bien réussi à faire admettre aux politiques que ça n'était pas efficace, il reste à lui demander pourquoi il veut le faire. C'est en général, on n'a pas de réponse. Donc voilà, ce que j'étais venu vous dire, c'est ce que c'est que la net-neutralité, les enjeux qu'il y a derrière, qui sont en fait des enjeux très lourds, il y a des enjeux économiques. Pour ça que quand on parle de l'industrie du contenu, c'est une grosse industrie. Quand on parle de l'industrie des télécoms, c'est une grosse industrie aussi. Les quatre gros opérateurs en France représentent une somme d'argent assez considérable, et ils détiennent la vie numérique de 99,9% d'entre vous. Si je vais vous citer les grands FAI français, puis on va voir qui n'est pas abonné chez eux dans la salle. C'est très, très drôle comme sondage. On va enlever Free, on va enlever SFR, alias 9, alias CGTEL, alias Télé2, alias AOL, etc. C'est même tout ça. Oui, je vous lis Evan pour Free et Alice. On va retirer Orange, aussi connu sous le nom historique de France Télécom ou de Nordnet pour c'est pas tellement la région, plus autour de Lille. Les gens qui pensent qu'ils ont un petit FAI local autour de Lille parce qu'ils sont abonnés à Nordnet, ils se trompent, hein, ils sont abonnés à Orange. Une fois qu'on a enlevé Numéricable, qu'on a enlevé Dartybox, parce que Dartybox, ça appartient à Numéricable. Enfin, c'est le réseau de Completel qui appartient à Numéricable. Qu'on a enlevé... On va considérer que Bouygues Télécom, ça reste quand même pas un nain dans le monde des télécoms. C'est un des trois énormes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un accès à Internet en étant abonnés chez pas un de ceux-là ? Un récalcitrant là-bas, il y en a un deuxième là. Donc nous sommes trois. Par curiosité, abonnés où ?
Mériel.
Néri le Magique, d'accord. Effectivement, les derniers petits. Voilà, ces gens-là ont un pouvoir énorme. S'ils décident de filtrer l'information sur le net, vous n'y pourrez rien. S'ils décident de vous empêcher de vous exprimer sur le net, vous n'y pourrez rien. Ou quand même que vous soyez au courant. Non, ils peuvent pas bloquer les tuyaux. Ils peuvent pas bloquer les tuyaux. Ils pourraient s'amuser à nous couper, ils ont essayé. Puisqu'on utilisait SFR comme grossiste, qui curieusement, en plein pendant les débats sur Adopi, vous a envoyé une belle lettre de résiliation du contrat. Donc, ils peuvent essayer de nous tuer, mais ils peuvent pas toucher au contenu. Plus que par contrat, par la loi. Pour le coup, vraiment, ils peuvent pas. Et ils sont, en fait, vis-à-vis de nous, ils sont pas fournisseurs d'accès. C'est nous qui sommes dans toutes les obligations incombant aux fournisseurs d'accès, même si la loi obligeait les fournisseurs d'accès à faire du filtrage, c'est sur nous qu'incomberait, que retomberait cette obligation. C'est pas sur nos grossistes. Donc le découpage est quand même relativement solide.
Si les quatre gros FAI s'entendent aussi bien que les trois gros du mobile et qu'ils décident de bloquer tous les FAI alternatifs, vous auriez pu atteindre, pardon. Pour que FDN arrive chez moi à Toulouse, c'est obligé de passer par quelqu'un. Si personne ne veut prendre de tuyaux, comment FDN fait ?
Alors, il reste quand même deux ou trois bouts de garantie. Il suffit pas qu'ils s'entendent. Il faut d'autres petits bouts. S'ils s'entendent, ce qui est à peu près le cas à l'heure actuelle, ça suffit pas à nous couper. Parce que, malheureusement pour eux, le marché des télécoms est régulé. Donc il y a une autorité de régulation, il y a quelques textes européens, et il se trouve qu'on a la langue bien pendue. Donc s'ils essayent de nous couper, ils y arriveront assez probablement parce qu'on est tout petit. Par contre, ils n'arriveront pas à nous faire taire, et on est capable de faire beaucoup de bruit. Ils pourraient, il est peu probable qu'ils y arrivent. Il n'y a pas d'intérêt majeur à le faire, parce que à part leur coûter en image de marque, globalement, pour le moment, on est juste des emmerdeurs et on les emmerde pas fort. Enfin, si tu veux, avec 100 abonnés, ils s'en foutent de nous. Quoi. Enfin, c'est pas grave. Si on devenait des martyrs, on serait beaucoup plus nocifs qu'avec nos 100 misérables abonnés. Parce que on deviendrait les petits que les gros ont essayé de tuer et qui pourraient être repris par la presse, etc., etc. Donc on serait plus dangereux. L'air de rien, à force qu'ils poussent des textes à la con et qu'on aille se battre contre les textes à la con, nous aussi, on a un carnet d'adresse maintenant. C'est-à-dire que des députés, des ministres, des conseillers de ceci, des conseillers de cela, on connaît des noms. Donc on sait aussi jouer au con. Et on sait faire un peu de bruit. On a plus de noms dans la presse que dans le politique. Mais on finit par avoir quelques contacts. Donc, il n'y a pas d'intérêt à nous faire taire. Si on avait 150 ou 200 000 abonnés, pas sur FDN, ça aurait pas de sens, mais sur, je sais pas, s'il y avait 150 FAI associatifs en France et dont chacun un millier d'abonnés, l'ensemble représenterait quelque chose de relativement dangereux, parce que ce serait plus un courant complètement marginal. Mais pour le moment, c'est pas le cas, on n'est pas dangereux. Mais si on était 150 000 et qu'on soit dangereux, on serait compliqué à battre. Exactement comme les associations de protection de la nature, qui empêchait les industriels d'industrier en rond, quand ils étaient deux ou trois dans leur coin, on arrivait à juste les ignorer. Maintenant qu'ils commencent à être un peu nombreux, et que des gens avec une étiquette écologie peuvent se présenter aux élections et faire 17%, il y a un vrai problème. On peut plus les contrôler. C'est-à-dire que maintenant, si tu essayes de faire taire une association de protection de la nature, tu te grilles dans toute la presse. L'association qui défend tel petit bout de nature dans un coin, elle est toujours connue de la presse quotidienne locale, elle a régulièrement des papiers, elle est relativement bien vue. Si tu essayes de la dézinguer parce qu'elle contrarie ton business, tu vas faire la une de la presse et ce sera pas bon pour toi. Et plus personne n'oserait. On est, pour le moment, suffisamment petit pour être ignoré. Si jamais on devenait suffisamment nombreux et ou suffisamment gros, on serait difficile à abattre, parce que bruyant. C'est toute la force du modèle associatif. Des raisons d'être inquiet, bah, toutes celles que je vous ai évoquées. Il n'y a pas de raison majeure d'avoir peur. Je sais que à la lecture régulière de la presse ces derniers mois, c'est un petit peu de mal à s'en convaincre, Mais nous sommes encore dans un état de droit. On met assez peu en France les gens en prison pour n'importe quoi, sauf quand ils font dérailler des TGV. Donc on pense qu'ils ont pu faire dérailler des TGV avec des trains, enfin avec des livres. Au final, on était surtout soupçonné d'avoir écrit un livre, si j'ai bien compris ce qu'il raconte dans la presse. Donc, hormis quelques cas assez précis, il y a un vrai risque, mais il n'y a pas de vrai danger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à ma connaissance à l'heure actuelle en France, de censure massive sur l'Internet fixe. Il y a par contre de la censure massive sur l'Internet mobile. C'est-à-dire, moi j'ai pas d'abonnement Internet là-dessus parce qu'il n'y en a pas, enfin ça marche pas, mais pour ceux d'entre vous qui en ont, ça c'est filtré jusqu'aux genoux. Pourquoi vous pouvez pas utiliser Skype? Pourquoi vous pouvez pas utiliser les services de téléphonie en ligne une fois que vous êtes connecté à Internet avec ça? Pas de raison technique, hein. L'accès Internet mobile, il est de la même qualité que les autres, il marche. Simplement, si on vous vend un accès Internet mobile illimité, ben vous payez ça. Et puis qu'après, vous vous en servez pour utiliser de la téléphonie, ben vous payez plus le téléphone. Ça, ils veulent pas. Donc pour le moment, on n'est pas vraiment sur de la liberté d'expression, parce qu'ils empêchent pas de dire. On est essentiellement sur de l'entrave à la concurrence en matière d'économie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est un petit peu moins grave, mais ça reste tout à fait sérieux. Et à l'heure actuelle, en France, on a la chance que l'Internet fixe soit raisonnablement peu filtré. Il y a quelques cas de filtrage, je peux vous en citer, en général je les connais, mais ils sont vraiment pas très nombreux et pas très graves. Ça reste très 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 modéré. Mais par contre, ça peut partir en sucette n'importe quand.
Dans la première partie du documentaire, il y a eu une petite allusion à l'opérateur historique France Télécom et ses tentatives de peut-être tuer un petit peu Internet dans l'œuf, comme tu étais là à cette époque-là. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre?
Alors, je peux pas vous apprendre beaucoup de choses, j'étais petit à l'époque, quand même. Il y a des bouts dont je me souviens, il y a des bouts que j'ai récupérés après. Que pour le coup, ceux qui étaient là, moi, quand je suis devenu président de FDN en 97, les vieux de la vieille d'Internet, les tout premiers, ils étaient encore aux manettes. C'est pas dur, il y a un moyen très simple d'expliquer ça, c'est que les vieux de la vieille d'Internet, les vrais vieux routiers du truc, ils savent qui je suis. Pas Benjamin Gaillard en tant que personne, en général, quelques-uns commencent à l'avoir identifié, mais c'est surtout président de FDN, ça leur parle. Parce que pour eux, ça a un sens. Et en général, soit ils ont continué à suivre, ils savent ce que c'est qu'FDN, ils savent où on en est, ils savent qui je suis. Soit ils ont rangé des voitures depuis plus de 10 ans, et puis ils font « Ah, ça existe encore !» Mais donc, ouais, j'en ai croisé quelques-uns, et j'ai des bouts de choses sur le sujet. France Télécom n'a pas voulu d'Internet parce que c'était considéré comme un concurrent du Minitel. Ce qui n'est pas complètement faux. Alors il se trouve que la technologie Minitel rapportait beaucoup et que la technologie Internet, on n'en maîtrisait pas encore le business. Il y a d'autres raisons qui sont venues se superposer à ça. La technologie Minitel était entièrement basée sur le téléphone et était 100% propriété de France Télécom, alors qu'Internet a commencé à se développer après l'ouverture du marché des télécoms, et que donc la libéralisation du marché des télécoms permettait qu'il y ait des concurrents. Donc de l'accès Internet, c'était toujours fourni par des concurrents de France Télécom, jamais par la maison. Donc il y a eu des tentatives assez nombreuses, et il y a eu des débats assez longs. France Télécom a mis très longtemps à se décider à lancer un fournisseur d'accès. Je me souviens de l'arrivée de Bonadou sur le marché. C'était en 96, je dirais, ou en 96. Ils y sont toujours allés à reculons. Et ça n'est que vers 2002-2003 qu'ils ont fini par accepter d'y aller en avant, parce que c'était le seul produit qui avait une chance de survivre dans ce qu'ils vendaient. France Télécom a toujours voulu empêcher, mais c'était la même chose, c'était un business devenu obsolète qui se débattait et qui voulait pas bouger. Alors ils ont eu, parce qu'ils voilà, ils étaient porteurs de l'ancien et du nouveau business, donc ils se sont assez facilement reconvertis. Le problème d'Universal est beaucoup plus sérieux. Parce que pour le moment, ils sont porteurs que de l'ancien business. Ils n'ont pas encore trouvé le nouveau. Ils n'ont pas voulu. Ça fait 10 ans qu'ils refusent de réfléchir. Alors, les premiers grands cris d'orfraie posés par les gens du contenu sur le peer-to-peer, c'était Napster, c'était en 99. Et voilà, 10 ans plus tard, ils n'ont toujours pas réfléchi à trouver un modèle économique.
Bonsoir.
Vous avez parlé de filtrage, vous n'avez pas parlé d'écoute. J'entends par là de captage d'informations sans filtrage, de savoir ce qui se passe sur le réseau entre deux personnes qui communiquent. Est-ce que FDN doit envoyer ses flux optiques aux autorités, par exemple?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des écoutes sur le réseau Internet comme il y a des écoutes sur le réseau téléphonique. C'est encadré très exactement par la même loi. C'est traité très exactement de la même façon. Pour le coup, pour avoir bossé chez tous les gros opérateurs, c'est fait proprement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute sauvage et toutes les demandes de mise sur écoute passent par le service juridique qui valide que c'est bien une vraie demande émanant d'un vrai juge d'instruction. Donc ça, en général, ça se passe gentiment. Bien évidemment, FDN est soumis à ses obligations. Si la justice nous demandait de mettre quelqu'un sur écoute, petit un, nous serions tenus de le faire, petit deux, nous serions tenus de ne pas le lui dire. Donc, le fait d'être dans un fournisseur d'accès ou de téléphonie associatif, indépendant, tout anarcho-bordélique qu'on veuille, ça ne permet pas de se dédouaner des obligations légales.
Moi, je voudrais bien rebondir sur la première question. Alors.
Oui, oui.
C'était par rapport à c'était l'existence en fait de FDN par rapport à ses grossistes, quoi. S'ils pouvaient couper les tuyaux et si légalement c'était robuste. Et en fait, c'est vis-à-vis de l'expérience que vous avez eue avec SFR, qui a arrêté de récolter votre trafic, vous êtes passé directement chez Nérim et puis on a vu passer ça et puis j'ai pas trop su pourquoi SFR et comment ils avaient fait pour faire cette décision-là. Et pourquoi vous n'avez pas passé, par exemple, avant chez Nérim, en fait?
Alors, pourquoi avant on n'était pas chez Nérim? Pour une raison très simple, ça rajoute un intermédiaire qui ne sert à rien, techniquement. C'est purement technique. Si tu regardes, Nérim ne fait rien que nous sachions faire nous-mêmes. Je vois pas l'intérêt de payer quelqu'un pour le faire en place. Non, pour le faire à la place de FDN. Nérim est client de SFR. Nérim achète ses lignes chez SFR. Donc, Nérim est simplement un intermédiaire entre nous et notre ancien grossiste. Nérim est une boîte tout à fait estimable et qui fait des tas de choses dans des offres pour entreprises qui nous intéressent pas. Mais dans le boulot qui est le nôtre, fourniture d'accès Internet grand public, il n'y a rien qu'il fasse et que nous ne sachions pas faire nous-mêmes. Je donne un exemple très simple. La qualité de l'interconnexion entre le système d'information de FDN et celui de SFR était bien meilleure que celle qu'il y a entre le système d'information de Nérim et celui de SFR sur la gestion des transmissions de commandes, des récupérations sur erreur, des analyses d'incidents sur les lignes, etc., etc. Je sais à peu près à quoi ça tient. C'est-à-dire que Nérim, c'est une boîte, ils ont des moyens limités. Ils sont obligés, quand il y a une mise à jour à faire, de la faire pendant que tout continue à tourner. Ils s'autorisent pas de perdre des clients, etc., etc. Nous, on est une association, on est des bénévoles, ça change tout. Donc, on a quasiment personne pour faire le boulot, mais le boulot qui est fait est gratuit. Les nuits que j'ai passées à coder le merdier, personne les a payées. FDN n'avait pas les moyens de me payer l'équivalent de mon salaire pour faire ça. Mais il se trouve que je l'ai fait. Et il se trouve que, comme j'ai bossé, entre autres, chez CGTEL avant que ce soit absorbé dans SFR, les contrats d'interconnexion SI, les gros opérateurs, ça va, c'est bon, je connais par cœur. Ça m'a pas coûté longtemps à coder. Mais Nérim ne nous apporte pas grand-chose. La seule chose qu'ils nous apportent, c'est qu'ils achètent dans des volumes bien supérieurs aux nôtres. Donc ils ont un prix de gros qui est meilleur. Et donc, ils nous revendent en petite quantité nettement moins cher que ce que nous revendait SFR.
Mais comment SFR, vous avez
pu? Ils ont envoyé un recommandé, tout simplement. Et en plus, très amusant, il y a plein de détails dedans qui sont très rigolos. SFR a envoyé un recommandé chez le trésorier. Alors que l'usage, quand on veut résilier un contrat, est de l'envoyer au siège social, c'est-à-dire chez le président, pour ce qui concerne FDN. Et c'est SFR qui l'a envoyé, alors que moi, j'en suis certain, en tant que président de FDN, je n'ai jamais signé un contrat avec SFR. Moi, j'en ai signé un avec CGTEL. J'ai reçu un courrier de CGTEL m'informant que désormais il s'appelait Neuf, mais j'ai pas reçu de courrier de Neuf m'informant que désormais il s'appelait SFR. Donc, en fait, quelqu'un que je ne connais pas m'a informé que mon contrat a été résilié en m'écrivant à la mauvaise adresse. Mais j'ai eu le courrier quand même, ce qui prouve que la poste, c'est formidable. Non. Non, non, elle est faite en s'appuyant sur un article du contrat qui parle d'autre chose. Mais pour le moment, j'ai pas encore eu le temps d'écrire ce dont il y a besoin pour commencer les recours devant l'ARCEP, mais c'est prévu. J'ai la procédure de contentieux devant l'ARCEP imprimée sur mon bureau depuis 3 mois. Il faut que je trouve quelques jours au calme avec beaucoup de café pour écrire du juridique pénible en 11 exemplaires. Et pour le moment, on n'a pas le temps de le recourir après. Mais on fera quand même de le recourir après. Il faudra que je réfléchisse à ce qu'on va demander à l'ARCEP, parce qu'on va pas forcément demander le rétablissement du contrat. Quoique, ça pourrait être distrayant. Ça pourrait être très distrayant de les forcer à maintenir un contrat sur lequel on paierait 15 ou 20 euros par mois jusqu'à la fin de l'éternité, où ça leur coûterait à peu près 1000 fois ça en frais pour faire les factures. Enfin, ça me plairait beaucoup. Ce serait potache. Mais je pense qu'on demanderait au moins une compensation financière.
Est-ce qu'on a espoir qu'un jour les opérateurs mobiles soient considérés comme des FAI, étant donné qu'ils vendent du pseudo-internet?
Ils sont considérés comme FAI, j'entends. Explique-moi le fond de ta question.
Je veux dire, tu as dit qu'ils étaient, il y avait des règles de neutralité à respecter en tant que FAI. Or, ils ne le font pas vraiment.
Alors, ils sont tenus aux mêmes règles, pour le coup. C'est tous les gens qui sont concernés par le code des postes et communications électroniques. Donc, tous les titulaires d'une licence d'opérateur télécom, et c'est le cas entre autres des opérateurs mobiles, ils sont tous concernés par l'article L32.1 qui décrit les missions de l'ARCEP et les obligations des opérateurs. Dans ces obligations, il y a la neutralité du réseau, qui n'est pas définie dans la loi. C'est juste que c'est obligatoire, mais ça dit pas ce que c'est. Il se trouve que l'ARCEP n'a pas véritablement de moyen de sanction là-dessus, ne souhaite pas sanctionner, et que de toute façon, personne ne s'est plaint. Mais d'un autre côté, si tous les gens qui sont pas contents d'avoir un accès Internet mobile filtré appellent l'ARCEP, il y a un service consommateur à l'ARCEP, hein. Le numéro de téléphone, on a le droit d'appeler en disant « Bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Paul Dupont, je suis abonné chez SFR Bouygues, je suis pas content, je ne peux pas utiliser Skype sur mon accès Internet illimité, il se trouve donc être limité, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce foutoir. » Tant qu'on est un par mois à appeler, l'ARCEP s'en fout. Quand on sera deux par jour, ils s'inquiéteront. Parce que comme personne sait que le numéro existe, deux par jour, pour eux, ça les pauvre. C'est à peu près le même phénomène qu'avec les députés, ça. Quand on a commencé à les discuter avec les députés, vu qu'ils s'intéressaient à des lois sur nos jouets, ils n'ont pas bien compris le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que bon, nous, on a essayé, on a fait ce que fait tout internaute raisonnable. On voit quelqu'un qui dit une connerie, bah, on cherche son nom dans Google, on trouve son site web, puis on lui envoie un mail. Bon, ils répondent pas dans ces cas-là. Alors, on a fait différemment, on a essayé le téléphone, puis on s'est déplacé, puis on leur a envoyé des notes où on expliquait ce qu'il n'y avait pas. Et ils ont eu un peu de mal à suivre, parce que ça ressemblait à ce que font les lobbyistes. Les lobbyistes aussi, ils cherchent à les joindre, les rencontrer, ils envoient des notes de synthèse, des propositions de correction du texte, etc. Et puis, assez vite, ils ont compris qu'on était relativement nombreux. Et on s'est retrouvé dans des situations qui, pour les députés, sont totalement incongrues. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui se sont retrouvés à rentrer chez eux en circonscription. D'habitude, le rendez-vous du député en circonscription, c'est débloquer le dossier administratif pour avoir une place à la crèche, débloquer le merdier pour avoir un HLM, débloquer le dossier qui est coincé sur l'obtention d'un permis de séjour. C'est ce genre de bordel-là. Et ils se sont retrouvés à avoir des gens dans leur circonscription qui demandaient des rendez-vous pour venir leur parler du texte qui était en discussion à l'Assemblée. Ça, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. C'est une anomalie, c'est juste... Faut se rendre compte. Moi, ça me paraît être quelque chose qui est profondément dans la norme. Un citoyen électeur qui va discuter avec le député qui vote les lois, des lois qui sont en cours de discussion. Enfin, ça me paraît aussi naturel que de parler de la qualité de la viande à mon boucher. Eh bien, figurez-vous, ça se fait pas. Il n'y a que nous autres qu'on le fait, on est les seuls. Moi, je trouve que tout le monde devrait faire comme ça. Et devrait faire de la même façon. Enfin, quand les paysans vont déverser des tombereaux de fumier devant les préfectures, ils font quelque chose de similaire. Mais tout le monde est habitué à ce que ce soit le patron du syndicat paysan qui aille discuter avec le ministre. Enfin, d'un autre côté, un paysan, ça sait lire, ça sait écrire. Un texte de loi, c'est écrit à peu près en français. On a arrêté de le faire en latin. Voilà, avec un peu de bonne volonté, on peut le lire, on peut essayer de le comprendre, et on peut aller demander au député pourquoi il a voté ça. Et pas lui demander avec un tract, parce que ça, le député, il sait répondre au tract. Le tract, c'est l'argument tout fait. Il a un argumentaire tout fait qui est l'argumentaire officiel du groupe UMP ou du groupe socialiste. Et puis voilà, on va faire argumentaire officiel contre argumentaire officiel, ça sera très vite plié. Par contre, vous allez le voir, vous, en ayant lu le texte, en disant « mais je comprends pas, le texte, il dit des conneries », le député sera beaucoup plus embêté pour vous. Et si en plus le texte que vous amenez, c'est précisément la publication au journal officiel de ses déclarations dans l'hémicycle, il va être très, très embêté pour vous expliquer pourquoi il a déclaré ça. C'était le jeu sur le site député Godillot.
Député Godillot, c'est à temps ce qu'il faisait. Répéter les conneries que disait le député, d'ailleurs, ça n'a pas pris.
Ça a beaucoup déplu, oui.
Ça a parlé pendant les RML cette année, autour de la table ronde.
Ça a effectivement énormément déplu. Mais c'est quelque chose d'intéressant de se rendre compte que le pouvoir, au sens être élu ministre, ou désigné ministre, ou autre chose comme ça, c'est très compliqué, mais le pouvoir au sens premier du terme dans une démocratie, quoi. Un citoyen qui se lève le cul de sa chaise et qui va parler avec son député, il a du pouvoir. Et c'est surprenant, et quelque part, je trouve que c'est rassurant. J'en suis assez ravi. J'ai constaté, moi, en allant parler avec des députés, que ça me donnait du pouvoir de leur parler. Parce que, ben, quand je viens avec des arguments intelligents, ils m'écoutent. Et donc, le côté, quand on dit tous pourris, ben, c'est bien de votre faute. Vous n'y êtes pas allé. Vous n'êtes pas allé leur expliquer qu'ils se sont trompés, donc ils ont eu raison de faire comme ils avaient envie. Et je trouve ça quelque part assez rassurant. Ça veut dire que quand on se comporte comme des citoyens dans une démocratie, les politiques sont contraints de se comporter comme des politiques dans une démocratie. Et c'est la seule solution qui marche. Il ne faut pas espérer que eux fassent le ménage. Espérer qu'ils fassent le ménage parce qu'on les regarde.
Une association aussi populaire que l'hôtel.
Oh là, non, ça c'est une grave erreur de lecture. FDN, c'est parfaitement inconnu. Non, des fois je me montre le bourrichon, je regarde combien il y a de gens qui ont vu la conférence Minitel 2.0, que je suis invité à causer à Toulouse, machin, tout ça. Bon, puis après je regarde un petit peu. Bah, globalement, je suis vachement connu. Dans le monde où j'étais déjà vachement connu avant, en fait, qui est le petit monde du logiciel libre et de l'internet alternatif, où, alors voilà, il y a 10 ans, on m'aurait dit que j'étais connu parce que j'étais le spécialiste de la tech en France et que donc toute la communauté scientifique française me connaissait. Ce qui n'était pas complètement faux, voilà, parce que j'étais le mec qui avait écrit un mode d'emploi en français sur la tech. Mais, je suis très peu connu. Pour les gens qui ont fait médecine comme étude, qui ont 60 ans et qui dorment sur les bancs de l'Assemblée, Benjamin Bayard, c'est personne. Mon nom est vaguement connu dans une toute petite poignée de personnes qui sont tout le temps sur Internet, et FDN est beaucoup moins connu qu'on le prend. Donc, maintenant, à force que je traîne dans les couloirs de l'Assemblée, je finis par être reconnu assez facilement par 5-6 députés. Mais c'est parce que j'y traîne beaucoup. Hein. Je me serais contenté de brailler sur Internet, ils n'auraient pas fait rire. C'est parce que je suis allé les voir. Il y en a comme ça 2-3 pour repérer. Et je pense que ça joue pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à des dossiers, qui les suit, et qui les suit sur plusieurs années, et qui s'implique vraiment, les politiques ne peuvent pas ne pas le reconnaître. Donc oui, ça donne du quoi. Mais j'ai constaté que le citoyen lambda qui va voir son député en disant « attention, c'est une connerie ce que t'es en train de voter, tu devrais au minimum lire le texte », ça a du poids. Je dis pas que le citoyen va devenir un conseiller officieux, mais au minimum, le député va se poser des questions. Donc ça veut bien dire qu'on est dans une démocratie dans laquelle, quand le peuple se bouge, le peuple est un peu écouté.